Résonance sur Radio B. Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission. Une émission réalisée et mise en onde par Simon Deborne. Depuis le 30 octobre dernier, nous sommes entrés à nouveau dans une nouvelle phase de confinement. Ce virus, la Covid-19, depuis qu'il s'est incrusté parmi nous, révèle jour après jour avec force l'état fragile et incertain de notre civilisation rationnelle et opératoire. De ce fait, il agit comme un accélérateur des tensions aussi bien que des solidarités. Il est le signe, le révélateur d'une mutation, d'une transformation profonde de notre monde, de son fonctionnement, de notre manière d'habiter humainement le monde. Nous vivons donc une période totalement particulière, inédite, qui nous secoue, nous malmène, nous bouscule. Elle grossit les traits de nos contradictions et de nos limites. Elle met au cœur du sujet et en travail, plus que jamais, la question du comment être ensemble à plusieurs. Cette situation, notamment le premier et ce second confinement, vient altérer, interpeller les fondements mêmes et l'exercice de notre liberté individuelle et collective, la liberté de nous déplacer, de nous réunir, de gérer notre vie commune et individuelle. Cette crise sanitaire, ce virus, toutes les diverses contraintes dues à celle-ci, nous poussent à nous interroger sur nos existences, nos modes de vie, nos aspirations, nos vrais besoins, sur ce qui paraît futile, utile. Du coup, cela pose la question du « comment vis-tu ?». Comme le souligne Edgar Morin, cette question est plus actuelle que jamais, est devenue cuisante dans les confinements, comme cette autre question qui concerne également chacun d'entre nous, qu'est-ce qu'être humain ? Peut-être que cette période où l'incertitude, l'inconnu, l'ignorance, l'intranquillité se manifestent plus fortement à nos yeux, peut constituer une opportunité de chercher, de questionner, d'expérimenter, d'explorer ce « comment vis-tu » et ce « qu'est-ce qu'être humain ?». Comme l'écrit le philosophe Jean-Luc Nancy, le virus ouvre la possibilité d'une véritable révolution de l'esprit, au cœur de laquelle est posée la question de notre capacité à nous accommoder collectivement de la non-maîtrise absolue de notre histoire. Cela peut constituer, poursuit-il, une tentative de trouver comment entrer ensemble, en peuple, dans l'avenir et de partager à voix égale le poids de la finitude et du non-savoir. Fin de citation. C'est donc une aventure à vivre, à partager, dont chacun de nous porte en lui l'inconnu, l'ignorance, le mystère, la folie, la raison de l'aventure.
Bigolo, bigi, bobo, no, mano, no, capo, bolo, no, bobo, 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 bobo.
nous venons d'entendre Bibi Lolo Ba Di Toto Mami Mani Nino, extrait du cycle Chansons imprévues composé par Marc Monet, compositeur né en 1947, pour voix et clarinette mi bémol, interprété par Françoise Kübler et Armand Angster à la clarinette. Je ne cherche pas l'originalité, je cherche l'invention, écrit justement le compositeur Marc Monet. La vie ne peut être qu'à ce prix, poursuit-il. Inventer ce qui, chez l'homme, n'est pas encore arrivé au conscient. Il ne s'agit pas d'une simple manipulation entre conscient et inconscient, mais de la transformation de ce que notre petite machine humaine est capable de réinventer. L'invention travaille contre l'habitude. Fin de citation.
L'art consiste à faire éprouver aux autres ce que nous éprouvons, à les libérer d'eux-mêmes, en leur proposant notre personnalité comme libération particulière. L'impression que j'éprouve, dans sa substance véritable, qui me fait l'éprouver, est absolument incommunicable, et plus je l'éprouve profondément, plus elle est incommunicable. Pour que je puisse, par conséquent, transmettre ce que je ressens à quelqu'un d'autre, il me faut traduire mes sentiments dans son langage à lui, autrement dit, exprimer les choses que je ressens de telle façon qu'en les lisant, il l'éprouve.
Résonance sur Radio B, nous venons d'entendre un extrait du livre de l'intranquillité de l'écrivain et grand poète portugais du XXe siècle, Fernando Pessoa, 1888-1935, et ce texte est lu par Josie Josserand.
Et toi, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu.
Résonance sur Radio B, nous venons d'entendre un autre extrait du cycle Chansons imprévues, composé par Marc Monet. Celui-ci s'intitule « Oui » et il était écrit, il a été imaginé, composé par Marc Monet pour voix et cette fois-ci clarinette si bémol. On retrouve toujours avec un très grand plaisir Françoise Kubler et Armand Angster à la clarinette, deux artistes excellents, incroyables, de virtuosité, d'esprit et de musicalité.
Rien, plus rien, personne, même pas un seul bruit. La vie vit-elle ? Tout est calme, aucune respiration. Pas de bruit, des pas des animaux qui courent dans la savane ou dans la forêt. La nature s'est arrêtée, le monde s'est arrêté de vivre. Le nuage bouge en silence, le soleil brille en silence. Rien, plus rien. Le vent siffle en silence. L'orage tonne, grande, tourbillonne. Sans bruit, rien que des flashs, Les feuilles tombent en silence. Rien, plus rien.
Asma Louis, vous venez de nous faire découvrir ce texte que vous avez écrit tout récemment. Qu'est-ce qui vous a conduit à écrire un texte comme celui-ci?
Parce que ça me fait penser à la situation qu'on vit en ce moment avec le confinement, quand on sort les restrictions et tout, et quand on sort, et ben, ça me fait penser à ça. C'est comme si le monde s'arrêtait de vivre et qu'on n'avait plus le droit de respirer, ou on devait arrêter de respirer et puis plus rien faire, quoi, rester confiné chez nous, comme si on était mort, quoi.
Oui, est-ce que vous aviez ressenti la même chose, puisque c'est un deuxième confinement? On avait vécu cela au printemps, qui était encore sous une forme peut-être plus stricte, et vous aviez déjà senti aussi fortement cette chose, ou c'est cette fois-ci que vous sentez davantage un peu ce qu'il en est?
Non, c'est cette fois-ci que j'ai vraiment senti ça, et c'est pour ça que j'avais besoin de l'écrire, du coup je l'ai écrit.
Passer à travers les mots, écrire avec les mots, c'est quelque chose d'important pour vous aujourd'hui?
Oui, pour accepter la situation et puis les restrictions, pour moi c'est important d'écrire pour pouvoir comprendre les choses et aussi pour vider la tête, pour être mieux.
Ça, c'est aussi cette écriture à travers les mots, c'est une activité que vous avez régulièrement maintenant depuis plusieurs années?
Oui. Depuis plusieurs années, avec Jean-Pierre Barboza, il anime des ateliers écriture.
À l'ESAT de Tréfort.
À l'ESAT de Tréfort, oui. Et il nous donne un thème. Et puis là, il nous avait donné le thème du silence. Du coup, j'ai trouvé que, vu la situation qu'on vit, alors du coup, j'ai écrit cela.
Et donc, vous écrivez régulièrement des poèmes maintenant?
Oui.
Quand vous le sentez?
Oui. Régulièrement, et même en dehors des ateliers, j'en écris quand ça va pas bien, quand je vais bien, quand j'ai envie, j'écris. Je sais que je peux écrire, je suis libre d'écrire, du coup, pour moi, c'est important d'écrire.
Merci Asma Louis. Résonance sur Radio B. Et nous remercions Asma Aloui pour nous avoir fait découvrir en première audition son texte et d'avoir répondu à notre invitation.
Je ne suis rien. Je ne serai jamais rien. Je ne peux vouloir être rien. À part cela, j'ai en moi tous les rêves du monde.
Résonance sur Radio B. Nous venons d'entendre un nouveau texte de Fernando Pessoa, lu par Josie Josserand.
Thank you.
Résonance sur Radio B. Nous venons d'entendre Libre, le troisième mouvement d'une œuvre composée par Philippe Reynaud en 1997 pour violon et son fixé, interprété par Jean Lébert au violon. C'est une production discographique du groupe de recherche musicale, GRM, et de l'ACLAMA, Association pour les classes maîtrisiennes de l'École de musique et de danse de Chartres. Et il semble intéressant aussi de préciser, de vous indiquer, chers auditeurs, les propos qu'indique Philippe Reynaud à propos de cette œuvre Libre. Et il dit ceci, que le titre de cette œuvre Libre s'explique par le principe même d'écriture. Le musicien ayant au moment du jeu le choix de plusieurs pistes, entre guillemets. Chaque exécution est donc unique, fragile, comme l'éphémère, l'interprète demeure libre de ses choix, en conscience, comme tout un chacun.
Nombreux sont ceux qui en nous vivent. Si je pense, si je ressens, j'ignore qui est celui qui pense, qui ressent. Je ne suis rien que le lieu où l'on pense, où l'on ressent. J'ai bien plus d'âme qu'une seule. Il est plus de moi que moi-même. J'existe cependant, à tous indifférents, je les fais taire, je parle. Tous les influx entrecroisés de ce que je ressens ou pas, polémiques en qui je suis, je les ignore, et ils ne dictent rien à celui que je me connais, j'écris.
Résonance sur Radio B, nous venons d'entendre à nouveau un extrait du livre de l'intranquillité de l'écrivain et grand poète portugais du XXe siècle, Fernando Pessoa.
Petit soupir dans le vent, emporte les étoiles dans le ciel. Plus près de toi vient le silence, une note. Tous les silences se balancent dans le vent de l'hiver. Petit à petit, un silence arrive et discute avec le soupir. Personne, personne, je suis le silence qui pose dans la musique. Toutes les lettres sont un silence agréable quand on ne les lit pas.
Résonance sur Radio B, c'était un plaisir de découvrir la poésie de Dominique Bataillard et aussi de cette manière de travailler à partir de l'univers de Fernando Pessoa.
Né à Lisbonne, le 13 juin 1888 et décédé dans cette même ville le 30 novembre 1935, ce n'est que depuis peu d'années que Fernando Pessoa est considéré comme un des poètes majeurs du XXe siècle. En effet, si Pessoa a publié dans des journaux et dans les meilleures revues de l'époque une partie essentielle de son œuvre en prose et en vers, ce qui lui a permis d'être reconnu de son vivant par des auteurs de premier ordre, ce n'est qu'après son décès que ses proches ont trouvé dans sa chambre une malle rassemblant 27 543 textes inédits dont l'inventaire officiel n'a été dressé qu'en 1968. En raison de la masse et de la complexité de l'œuvre poétique posthume, les critiques considérèrent qu'ils ont affaire à une œuvre encore ouverte. Selon certains spécialistes, la poésie de Pessoa présente l'analyse la plus subtile, dolente et tragique de l'homme du XXe siècle, mais aussi la plus lucide, la plus impitoyable. Comme le signale Tabucci, on peut dire que Pessoa, dès 1914, a résumé par avance les problématiques du XXe siècle, le moi, la conscience, la solitude. Sa manière de les affronter, à savoir l'hétéronymie, fait de lui une figure étonnante et incontournable de la poésie contemporaine. Thank you.
Résonance sur Radio B. Et là, nous venons d'entendre ensemble et de découvrir deux œuvres du compositeur franco-vietnamien Nguyen Thien Dao. Nous avons tout d'abord entendu Can Thuc, composé en 2008 pour sitar solo et quintette à cordes, interprété par Thien Thuy à la sitar et le quintette à cordes de l'Académie de musique du Vietnam. Puis, vous avez pu entendre Coi Hat, toujours composé par Nguyen Thien Dao, mais cette fois-ci donc en 2005, et c'est une pièce écrite pour une vielle solo, interprétée par Thu An. Nguyen Thien Dao est né à Hanoï en 1940, il arrive en France en 1953 et entre en 1963 au Conservatoire National Supérieur de Musique à Paris. Il est l'élève d'Olivier Messiaen en 1967 et obtient dans sa classe le premier prix de composition au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris. Nourri des images de son enfance, de ses longues méditations devant la nature et imprégné de poésie vietnamienne et chinoise, il se définit comme l'héritier des deux civilisations orientales et occidentales, entre lesquelles il tentera une synthèse. En 1969, il est révélé au Festival de Royan. Son œuvre pour grand orchestre, Coscom, est créée à Radio France en 1971 et il reçoit en 1974 le prix Olivier Messiaen de composition. En 1978, son opéra Mei Chou Tong Thuy est créé à l'Opéra de Paris à la salle Favart. Enfin, en 1994, son opéra oratorio, Les Enfants d'Isieux, est créé au Festival d'Avignon. Et c'est vrai que cet opéra a une résonance particulière pour nous dans le département de l'Ain, puisque cette maison d'Isieux est dans notre territoire, et cette histoire aussi qui l'entoure a marqué profondément aussi également ce territoire. En 1995 et 97, deux œuvres dirigées par le compositeur lui-même à la tête de l'Orchestre National du Vietnam sont créées à l'Opéra de Hanoï, respectivement Hao Tao en 1995 et Thai Nak dans le cadre de la soirée de gala du 8e sommet de la francophonie. En 2000, il avait composé Arco Vivo, une pièce pour violoncelle solo, dont la création avait été faite par l'excellent violoncelliste qu'est Christophe Roy pour les Alabres rêvé de France Musique. Ces dernières années, Nguyen Thien Dao avait beaucoup joué au Vietnam, notamment pour des cérémonies officielles, et en 2008, sa création duo Vivo était jouée en hommage à Olivier Messiaen au théâtre des Bouffes du Nord. Et ce même Olivier Messiaen disait ceci de Nguyen Thien Dao. Il faut que vous sachiez aussi que je tiens Dao pour un très grand musicien, un des compositeurs les plus originaux de notre époque. Il y a quelques années, j'ai entendu son Coscom, communauté cosmique pour grand orchestre. J'en ai été bouleversé. Et tout ce qu'il a écrit depuis n'a fait que confirmer ce premier émerveillement. Nguyen Thien Dao est décédé le vendredi 20 novembre 2015 à Paris, à l'âge de 75 ans, donc cela va faire 5 ans que ce compositeur, Nguyen Thien Dao, nous a quittés. Et il est l'auteur de nombreuses pièces au confluent de la musique contemporaine et de la tradition orientale.
Clarinet, let me was thinking for Zong. La vie va s'imposarmi, va s'imposarmi, posarmi.
Thank you.
Vitriol, le troisième mouvement de la Wolfi-Cantata que nous venons d'entendre et de partager ensemble, composé entre 2009-2010 pour six voix solistes par le compositeur Georges Abergis. Et il a composé cette œuvre à partir du flux torrentiel des bribes de phrases, listes énumératives et paroles indéchiffrables dont Adolf Wolfli remplit 44 cahiers durant les longues années passées à l'asile d'aliénés de la Waldau près de Berne. La Wolfli-Cantata a été créée par les Neues Vocalisten Stuttgart, placée sous la direction de Markus Kraed. Alors effectivement, ce travail a été imaginé à partir des 25 000 pages d'une biographie imaginée, la légende de Saint Adolphe, au sein d'un univers chaotique de mots et de sonorités qui s'entrechoquent et se combinent au-delà des sens, et toute cette biographie ne pouvait que saisir l'attention du compositeur Georges Arpirgis, qui n'a cessé de son côté de questionner le rapport du mot et de sa sonorité. Encouragé par son psychiatre Walter Morgenthaler, qui constituera un petit musée des œuvres de ses patients, cet artiste qui était Adolf Wolfli laisse, outre sa grande propre histoire, où il se désigne comme un saint, 1300 dessins à l'organisation géométrique et chargé de mots hybridés par le dialecte bernois et l'orthographe personnelle de Wolfli. Il avait déjà fait le travail pour moi, se déclare Georges Apergis, ou du moins, lui avait-il suggéré les possibles constructions, processus et autres agrégations de mots par sa partition à venir. Dans Vitriol, le compositeur fait référence à cet imaginaire de Wolfli, et notamment à sa trompette en papier, en multipliant les modes de jeu vocaux et certains effets de mixture très savoureuses. Et là, on peut saluer aussi les 6 voix solistes et les inimitables Neues Vocalisten de Stuttgart, qui donnent à l'écriture effusive, fantasque et éminemment théâtrale de Georges Apergis ses couleurs, son effervescence rythmique et son extraordinaire vitalité galvanisée par l'effet des processus vocaux qui organisent le chaos. Et c'est donc sur ce voyage, à travers les mots, l'imaginaire d'Adolf Wolfli que prend fin notre émission d'aujourd'hui. Résonance sera rediffusée mardi prochain de 13h à 14h, puis dimanche de 20h à 21h. Vous pouvez podcaster bien sûr cette émission autant de fois que vous le souhaiterez en vous rendant sur le site de Résonance Contemporaine www.resonancecontemporaine.org ou sur le site de Radio B www.radio-b.fr. À très vite, à très bientôt et portez-vous bien avec Radio B.